Ah, bonjour, je suis Claudette Carbonneau de la CSM. Vous écoutez Voix de fait.
Un budget équitable.
Hey, bonjour, bonsoir, comme le disait la camarade Carbonneau. Vous êtes à l'écoute de Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec, en compagnie de Nicolas.
Et Farouko en même temps.
Donc, l'émission du collectif Anarchiste La Nuit. Qu'est-ce qu'on va entendre cette semaine? Des voix discordantes sur le budget. Et oui, le gouvernement du Québec a déposé un budget le jeudi 17 mars dernier. Et Voix de fait a réussi à s'infiltrer dans le huis clos budgétaire. Mine de rien, comme ça.
On est big.
On est big. Et on ramène un reportage. En fait, c'est François qui s'est tapé le huis clos. Il nous ramène un super reportage sur ça. Et justement, des voix discordantes sur le budget. Sinon, on va faire le tour des manifestations. Il y a le RICLAC qui a manifesté dans le cadre de la Journée internationale contre la discrimination raciale. On l'aurait pas su en lisant le soleil, mais bon. Et puis, c'est ça. Sinon, on a des petits bijoux trouvés sur le web à vous présenter. Donc, vous êtes avec nous pour la prochaine heure.
Oui, et on va commencer avec le band international, si on veut être précis, Oi Polloi, qui nous chante, au fond, ce qui se passe dans toutes les guerres de ce monde. Ils tirent des enfants.
Jeudi dernier, sur l'heure du midi, si vous êtes passé sur René Lévesque, vous avez vu probablement quelque chose comme 300 personnes avec presque tous la même pancarte. C'était un rassemblement de l'Alliance sociale devant le centre des congrès parce qu'il y avait le huis clos du budget au même moment. Et oui, budget du gouvernement du Québec, on en a entendu parler, forcément, une hausse de frais de scolarité, une réforme de la régie des rentes, tout plein de belles coupures, des promesses que ça va faire mal, mais que c'est pour notre bien. Et évidemment, on n'a pas vraiment entendu parler de voix discordante, sinon peut-être pour les discréditer. Alors, voix de fait, on pourrait, toujours fidèle à sa mission.
On pourrait quand même nommer ce budget-là, l'intitulé « Le budget, on n'a pas les moyens de se le payer ». Tous les économistes, tous les spécialistes que tu vas entendre à la télé, on n'a plus les moyens de se le payer. Mais
on
n'a
plus les moyens de se le payer. Puis ce qu'ils disent pas, c'est que nous autres non plus, on n'a plus les moyens de payer ce que le gouvernement nous demande de payer.
Et voilà.
Alors, voilà. Alors aujourd'hui, grande messe libérale pour le huis clos du budget. Donc, des centaines d'experts, de journalistes, d'idéologues, de vendeurs d'assurance se rassemblent au Centre des congrès à Québec pour assister à la remise du budget. On nous a remis en rentrant tout un paquet de documents, vraiment des pouces et des pouces de papier, des communiqués de presse, des analyses, des tableaux statistiques, vraiment un paquet de trucs. Et on a même deux clés USB pour être sûr qu'on n'en manquerait pas. Et puis là, on va ensemble, on va regarder ça, on va s'entretenir avec nos amis du milieu communautaire et puis on va éplucher le budget puis on va vous en donner on va vous donner nos impressions. Huis clos, budget, Parti libéral. Oh là là.
Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui qui me dirait froidement tout ce que j'ai, c'est à toi.
Donc, c'est accompagné de François Saillant, du Frappru. Tes premières impressions?
Ben, dans le domaine du logement social, c'est clair qu'on est carrément furieux de l'annonce du budget.
Qu'est-ce qui s'est passé? Combien il annonce?
Durant la campagne électorale de 2008, le premier ministre s'est engagé à financer 3000 logements sociaux par année pendant les 5 prochaines années. Or, dans le budget, on est rendu à 2000 logements. Et pire que ça, on fera pas d'annonce pour les prochaines années, mais on dit qu'on veut continuer à en faire, mais ils rendent ça conditionnel à de nouveaux modes de financement. Et à l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que ces nouveaux modes de financement-là sont élaborés par la firme Cyrano. Cyrano qui, à l'été dernier, a produit un rapport dévastateur sur le logement social, a carrément mené une charge à fond de train sur le logement social, et maintenant on lui confie le mandat d'élaborer de nouveaux modes de financement. Ça, c'est comme confier la banque de sang à un vampire. Là. C'est pas plus compliqué que ça.
Le Parti libéral vous a pas écouté, là?
Ah, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils nous ont écouté sur une petite affaire qui était à la question du rabaissement de l'âge d'allocation au logement, mais on peut dire que c'est pas beaucoup dans le portrait. C'est clair que la bataille contre le dernier budget s'est menée à... Il y a eu pas mal de monde qui sont descendus dans les rues, encore 50 000 personnes la fin de semaine passée. Il va falloir que ça se poursuive et éventuellement, il va falloir aller encore plus loin dans nos moyens de pression pour faire en sorte que ce gouvernement-là finisse par comprendre quelque chose.
Donc, il est 10h30, on est toujours dans le huis clos du budget. La salle commence à se remplir pas mal. Il y a pas mal de journalistes, d'experts. On sent une certaine fébrilité, une certaine nervosité aussi. Les gens épluchent les documents, au moins les 10 pouces de documents du budget. Et puis là, il y a quelques passages que j'ai notés qui ont retenu mon attention. On dit « mobiliser vers l'emploi ». Les clientèles aptes au travail de l'assistance sociale en valorisant le travail et en les accompagnant dans leur mise en mouvement vers l'emploi. Donc, mise en mouvement vers l'emploi. Donc, je suis en compagnie de Simon Tremblay-Pépin de l'IRIS. L'IRIS qui est?
L'Institut de recherche et d'information socio-économique.
Qui est un peu le pendant, mettons, de gauche de l'Institut économique de Montréal, si on peut dire ça comme ça.
On peut dire ça.
Exact. Donc, tes premières impressions?
On est face à une hausse des frais de scolarité, moins importante que ce qui a circulé, mais bon, c'est celle-là quand même, la plus haute hausse de frais de scolarité depuis plusieurs années, même 15-20 ans. C'est une hausse majeure des frais de scolarité. C'est une hausse qui va avoir des effets sur la fréquentation. C'est une hausse qui va avoir des effets sur l'endettement des étudiants. Donc, on est devant c'est probablement la mesure la plus importante du budget. Modification du régime des rentes également. Donc, les gens vont devoir cotiser davantage. Donc, tous les employés vont devoir cotiser davantage pour stabiliser le régime. C'est une mesure qui est sage de faire que le régime soit stabilisé. Cependant, le gouvernement se permet d'aller jouer un peu avec l'âge de la retraite. Donc, on encourage les gens à rester plus longtemps au travail. On essaie de les décourager de partir plus longtemps. Mais ce sont des mesures relativement mineures. À part ça, on a un changement du côté du gaz de schiste. Les redevances, on nous annonce des changements. En tout cas, une partie des nouvelles redevances, 25% de redevances vont être envoyées dans le fonds des générations qui sert à rembourser la dette. Alors, on voit que le gouvernement continue avec son obsession, la plus centrale depuis 10 ans maintenant, dette, déficit, c'est le seul mot. On garde le cap pour rembourser le déficit en 2013-2014. Au niveau des mesures sociales, c'est d'une pauvreté à pleurer. On a quelques places en garderie.
Tu as mentionné que les hausses de frais vont avoir un effet dissuasif sur l'accessibilité aux études. Pourtant, c'est marqué dans les documents du budget, c'est marqué, à ceux qui craignent que cet ajustement ait un impact dissuasif sur la fréquentation universitaire, je dis ceci, rien ne permet d'établir un lien entre le taux de fréquentation universitaire et le montant des droits de scolarité.
Le ministre Bachand a des drôles de réflexions sur la question de la fréquentation universitaire, alors qu'on lui dirait que sur n'importe quoi d'autre, le prix influence la demande, ce que n'importe qui va accepter.
Puis n'importe quel libéral accepterait.
Exactement. Eh bien, il semblerait que sur la question des frais de scolarité, il se ferme les yeux et dit non, il y a aucun effet. Pourtant, comment explique-t-il dans ce cas qu'il y ait 9% de plus de fréquentation postsecondaire au Québec que dans le reste des provinces canadiennes où les frais de scolarité sont plus élevés? C'est pas marginal, 9%. C'est franchement important. Et le ministre se ferme les yeux sur les conséquences que ça va avoir, et plus encore, ça aura des conséquences sur la teneur des cohortes. C'est-à-dire que non seulement il va y avoir moins de monde, mais ce ne sera pas les mêmes personnes qui vont aller à l'université, c'est les gens plus fortunés qui vont se représenter, qui vont se retrouver surreprésentés au sein des cohortes universitaires. Donc ça, c'est l'autre conséquence, c'est qu'on va encore renforcer, parce que l'université est déjà un lieu qui est majoritairement ouvert à ceux qui ont plus de moyens, ceux qui viennent de familles plus nanties, mais ça va renforcer cette tendance-là et éloigner les personnes les moins bien nanties des universités.
D'ailleurs, on pense à accroître de 50% les dons privés recueillis par les universités, ce qui porterait le financement à 165 millions de dollars. Donc, cet argent-là, c'est quoi exactement, ces dons privés-là?
C'est du wishful thinking complètement, ça. Là. Le gouvernement ne peut rien faire. Il ne va pas forcer les entreprises à faire des dons. Donc, ils veulent améliorer le marketing des fondations universitaires, etc., etc. C'est vrai qu'il y a des universités au Québec qui se financent avec la fondation. L'Université McGill, par exemple, Concordia, une bonne fondation. Bon, quelques-unes, disons, le monde anglo-québécois a davantage tendance à fonctionner sur des fondations. Il y a peut-être de l'argent à aller chercher là pour les universités. D'accord. Mais là, commencer à nous dire c'est un grand plan de refinancement, c'est n'importe quoi. Là. Ça ne correspond pas du tout aux besoins que peuvent avoir les universités au niveau du financement. Donc, c'est aussi une transformation du financement. C'est qu'on vient de dire, c'est la responsabilité des entreprises de donner selon leur bon goût. Hein. Aujourd'hui, je donne 100 000, demain, je donne 1000. À leur volonté de donner aux universités comme ça généreusement. Bon, c'est très bien s'ils le font. S'ils le font sans attache puis qu'ils mettent de l'argent, mais tant mieux, on va le prendre puis on va en faire quelque chose de bien. D'accord. Mais se fier là-dessus, c'est comme se fier sur la charité. Ça fait pas des mesures sociales, ça fait pas de la justice.
C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric. C'est commode d'épater quand on est argenté et qu'on n'a plus rien à compter. Je cherche un millionnaire.
Je reviens un instant sur les piles de documents qu'on a reçus, sur lesquels est imprimé le budget. Ce qui est important de savoir, c'est que le gouvernement est responsable, donc ce sont tous des documents recyclés. Et pour être bien sûr de nous le faire bien comprendre, il y a 5 logos à la deuxième page de chacun des documents pour nous expliquer que c'est bel et bien du papier recyclé et probablement fait avec dans l'esprit du développement durable. Donc, premier logo, éco-logo, choix environnemental avec une belle feuille d'érable canadienne. Ensuite, il y a une belle feuille de gui, c'est marqué procédé sans chlore. Ensuite, il y a le troisième logo, c'est le symbole de recyclage. C'est marqué 100%. Ensuite, c'est biogaz, donc une espèce de belle flamme formée avec deux flèches. Biogaz énergie. Et le dernier logo, c'est marqué recyclé, papier fait à partir de matériaux recyclés, si vous ne l'avez pas encore compris. Et pour être bien sûr encore, il y a une petite note en dessous, c'est marqué « Ce document est imprimé sur du papier entièrement recyclé, fabriqué au Québec, contenant 100% de fibres post-consommation et produit sans chlore élémentaire. » Donc, c'est le fun de se faire dire une fois que son document est recyclé, mais cette fois, c'est encore mieux.
Un budget équitable!
Une question de choix!
Il y a quelque chose que Raymond Bachand a parlé dans les derniers jours avant justement la remise du budget. C'est lui, il dit, moi, quand j'étais petit, je payais... mon financement, ça représentait 26% des revenus globaux des universités, alors que maintenant, en 2009, la proportion des étudiants, c'est de 13%. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
C'est parce que là, le ministre Bachand choisit son année. C'est ça le problème. C'est que on pourrait regarder en 89, on pourrait regarder en 80, on pourrait regarder en 70. Et à chaque année, il y a un pourcentage qui est différent. Pourquoi est-ce que 68, qui choisissent arbitrairement, alors que c'est une année où il y avait justement des frais de scolarité, oui, relativement bas, mais par rapport au coût de la vie relativement élevé, tu sais, aujourd'hui, on regarde ça 500$, on se dit, bon, ça coûtait vraiment pas cher, mais en même temps, comparé au coût de la vie, c'était relativement élevé. Mais ensuite, ils ont été gelés pendant très longtemps. L'année d'ensuite, en 1969, les gens payaient une part moins élevée du financement des universités. T'sais, de choisir une année comme ça, c'est un arbitraire total. Pourquoi celle-là? Pourquoi pas une autre? C'est quoi la juste part? À l'IRIS, nous, on a fait une étude qui est très simple. On a dit combien ça coûterait pour arrêter toutes ces histoires-là, enlever les tarifs et dire, ben, on met la gratuité scolaire. La juste part que les étudiants doivent payer pour leur université, c'est zéro. ce qu'ils doivent payer, c'est des impôts quand ils sortent de l'université, quand ils ont de l'argent, quand ils sont des travailleurs, puis ils participent à au système d'imposition. Nous, l'accessibilité, la capacité des gens à aller étudier pour augmenter leur savoir, mais aussi pour que la société en bénéficie, tout ça, ça nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est de rentabiliser l'éducation.
On a parlé beaucoup d'éducation. Peut-être juste un dernier mot sur peut-être une mesure peut-être positive. Je ne sais pas, ça va être à toi, Simon, de me le dire. L'intensification de la lutte contre l'évasion fiscale. On parle de créer une agence du revenu pour aller chercher plus d'argent. On parle même de 1,2 milliard de dollars qui seraient récupérés là, en évasion fiscale au cours des années prochaines. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
C'est annoncé dans le dernier budget, c'est la transformation du ministère du Revenu en agence du revenu. C'est pas une très bonne nouvelle, pour deux raisons. D'un côté, c'est une agence qui va fonctionner à la rentabilité. Ça veut dire que le directeur de l'agence va être complètement autonome, va avoir des pouvoirs quasi ministériels, et son objectif va être de rendre rentable l'impôt au Québec. La rentabilité, ce n'est pas la justice. Donc, par exemple, admettons que quelqu'un fait de l'évasion fiscale pour 4 milliards de dollars, mais c'est une grosse corporation qui a une trollée d'avocats. C'est probablement moins rentable en termes strictement économiques d'aller chercher cet argent-là pour la première fois parce que on va devoir affronter des avocats, on va devoir affronter des comptables les plus ubuesques dans leur préparation. Donc, il va avoir une armée de gens à affronter pour que le gouvernement aille chercher son argent. Il va peut-être même en perdre en allant chercher cet argent. Bon, je penserais pas sur 4 milliards, là, j'ai mis un chiffre immense, mais bon, il y a donc des choses qui sont difficiles à aller chercher. Mais si on est dans un esprit de justice, frauder le gouvernement de tel montant, ça exigerait tout de suite une action. Si on est dans un esprit de rentabilité, on va se dire, non, mieux vaut aller chercher la coiffeuse qui a un salon de coiffure dans son sous-sol, puis qui reçoit des clients, puis qui fraude pour 1 000 $, parce qu'elle, elle va nous donner le cash tout de suite. Donc, on n'applique plus la justice, on prend le ministère du Revenu, en fait l'agence maintenant du Revenu, comme tout simplement une agence mindée sur l'argent qui va aller chercher le cash. C'est ça son objectif. C'est pas une excellente nouvelle. Si ça aide à la lutte à l'évasion fiscale, puis s'il y a plus de résultats, mais là, dans les dernières années, ça va pas très bien, la lutte à l'évasion fiscale, c'est plutôt en baisse. Donc, si ça les aide à faire ça, tant mieux. Mais j'ai tendance à croire que ça aura plutôt l'effet inverse. Et quand on va pas chercher les gros poissons, parce qu'on dit que ça nous coûte trop cher, ça encourage les autres gros à le faire d'autant plus, parce qu'ils savent qu'ils sont protégés puis qu'il y a personne qui va venir les embêter. Ce ne sont pas de très bonnes nouvelles.
On retrouve aussi des passages assez lyriques, assez angélistes là, dans la section. Investir dans le potentiel des Québécois. On parle de l'école 2.0, la classe branchée. Donc, il suffit de voir avec quelle aisance les enfants s'approprient la technologie dans leur jeu pour comprendre que la salle de classe doit aussi parler leur langue. Donc, je suis en compagnie de Robin du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Dis-moi, Robin, c'est quoi les points saillants du budget?
Ben, en fait, c'est un budget qui ressemble beaucoup à celui de l'an passé, évidemment. C'est un budget qui se situe dans la droite ligne de ceux des dernières années, c'est-à-dire une ligne d'augmentation des écarts de richesse. Donc, une inégalité de revenus, très peu d'annonces au niveau de la lutte à la pauvreté. C'est un budget décevant. L'année passée, on a touché beaucoup au niveau de la santé. Cette année, c'est vraiment à l'éducation qu'on s'attaque particulièrement. C'est en droite ligne. En fait, depuis 96, avec le déficit zéro proclamé par Bouchard. Mais peut-être le budget d'Yves Séguin en 2004 qui a fait une différence. Sinon, ça a été des budgets qui ont tous eu comme conséquence de réduire l'action gouvernementale dans la réduction des inégalités. Donc, on voit très, très bien que l'action gouvernementale est de moins en moins efficace et que le marché crée de plus en plus d'inégalités. Donc, au niveau de la pauvreté, au niveau de l'appauvrissement, au niveau de l'accroissement des inégalités, ce budget-là est comparable aux autres. Et les effets, les véritables impacts, tu peux pas calculer ça l'année d'après ou dans deux ans, c'est sur plusieurs années. Donc, c'est réellement programmatique dans ce sens-là.
Là, tu parles, le marché crée des inégalités. Qu'est-ce que propose le collectif pour un Québec sans pauvreté au lieu, justement, d'obéir aux règles du marché?
Ben, en gros, il y a deux possibilités pour le gouvernement. Soit de mieux répartir les revenus à la base, c'est-à-dire s'attaquer au monde du travail, au marché, justement, et augmenter, par exemple, le salaire minimum, soit de mieux redistribuer par la suite. Ce budget-là ne fait ni l'un, ne fait ni l'autre non plus. Donc, il y a plusieurs mesures. Il y a de la richesse qui existe au au Québec. On pourrait parler de l'imposition d'un nouveau palier d'imposition. On est très, très proche là-dessus de la coalition opposée à la tarification, à la privatisation des services publics. Oui, oui. On est membre et on partage les positions. Donc, on a des positions qui sont très, très proches à ce niveau-là. C'est vraiment aller au niveau des ressources naturelles, des redevances qui soient plus élevées pour justement l'exploitation des richesses qui appartiennent à tout le monde. Donc, ce n'est que quelques exemples et aussi, évidemment, aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire on parle de l'imposition des compagnies.
Fait pour finir, Robin, un mot pour décrire le budget?
Inégalité.
C'est quand même assez amusant. Il y a toutes sortes de gens au cours du huis clos. Bon, il y a beaucoup de journalistes, beaucoup d'experts, mais la définition d'expert est peut-être quand même des fois assez large. On peut voir toutes sortes de gens se côtoyer, comme par exemple il y a Nathalie Elgrabi-Lévy de l'Institut économique de Montréal et son ami Éric Duhem qui est là aussi. Il y a Claudette Carbonneau, il y a François Saillant du Frappru, les gens des associations étudiantes FEUC-FEC, il y a des gens de l'IRIS, Raymond Bachand qui vient d'entrer. Donc, je suis en compagnie de Marie-Ève Rancourt, porte-parole de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation. Donc, tes réactions sur le budget?
Bien, écoute, c'est très, très décevant, évidemment. C'est pas avec grande surprise qu'on a pris connaissance de ce budget-là. Évidemment, un gouvernement qui maintient le cap, comme il l'avait annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire maintien des mesures régressives, taxes santé, tarifs hausse fulgurante des tarifs des frais de scolarité, maintien de la hausse des tarifs d'hydroélectricité pour les années à venir. Donc, un appauvrissement à prévoir de la classe moyenne. Puis, en matière de lutte contre la pauvreté, il n'y a que des miettes. Donc, évidemment, je pense que dans les années à venir, on peut s'attendre à un accroissement des inégalités sociales, un accroissement également des gens de la classe moyenne basse qui vont glisser dans la pauvreté. Plus au niveau des frais de scolarité, là, qu'on a vraiment pu prendre connaissance des détails concernant cette hausse-là. Donc, à terme, on parle d'un baccalauréat qui va coûter près de 15 000 $. Donc, ça ne va faire que perpétuer le cycle de la pauvreté. Ça constitue, encore une fois, une discrimination qui est basée sur le statut socio-économique de ces gens-là et c'est déplorable.
Les gens, comment ils vont réagir face à ce budget-là?
Bien, nous, on espère qu'ils vont réagir avec indignation et avec colère. Puis, il y aurait raison. Je pense qu'on a raison de s'indigner de telles mesures budgétaires. C'est pas pour rien que il y a le Conseil du patronat et la Chambre des commerces applaudissent à ce genre de budget-là. Évidemment, c'est un budget qui plaît aux grandes entreprises, qui plaît aux personnes les plus nanties. Pourquoi? Parce qu'elles conservent leur richesse, parce qu'elles ne redistribuent pas la richesse. Donc, de notre côté, nous, on va maintenir un plan d'action, le plan d'action qu'on avait déjà établi. Donc, on va maintenir la pression. On va y aller avec des actions de plus en plus dérangeantes. On invite, évidemment, la population à y participer, à nous suivre, à exprimer également son mécontentement. Et on espère que le gouvernement va finir par entendre raison.
Mais c'est quand même décevant, tu sais, quand on voit justement, il y a quelques jours, il y a eu une manifestation extrêmement importante, la première manifestation de l'Alliance de la Coalition Ensemble. Il y a eu même des tentatives d'occupation de bureaux de ministres. Le Frappru a fait montrer la pression. Il y a eu une caravane très récemment. On voit que ça n'a pas influencé le gouvernement. Alors, on se dit, est-ce que ça donne quelque chose, finalement, toutes ces pressions-là?
Bien, c'est bien évident que c'est un gouvernement qui gouverne avec un dogme néolibéral en tête. Il a des théories du libre-marché qu'il ne fait qu'imposer aveuglement maintenant. On pense qu'il faut nécessairement maintenir la pression, continuer les actions, dénoncer ce gouvernement-là et puis exiger des mesures plus justes. Exiger, en fait, d'un gouvernement qui fasse sa job, c'est-à-dire gouverner pour la population et non pas pour une petite clique d'amis du parti ou pour une petite poignée d'élite économique.
Est-ce qu'on peut penser à un durcissement des moyens de pression, quelque chose des actions encore plus agressives, peut-être?
Mais évidemment, je pense que ça va dépendre de la colère des gens, ça va dépendre de l'indignation des gens. Je pense que oui, on peut s'y attendre. Évidemment, ça reste à suivre, mais nous, on espère que compte tenu de la ligne dure que tient le gouvernement, on pense que nous aussi, on va maintenir notre ligne dure.
Pour finir, Marie-Ève Rancourt, un seul mot pour décrire le budget?
Déplorable.
Car je sais que ces oiseaux rares veulent placer leur... millionnaire. C'est pour ça que je fais le boulevard.
Et voilà, c'était les derniers mots du huis clos du budget. La conclusion, ben, fiez-vous pas trop aux urnes pour régler la question de l'égalité et de la justice dans cette société. D'ailleurs, on entendait tout à l'heure les explications du Parti québécois qui était complètement enchevêtré dans ses explications sur la hausse ou l'inflation ou le gel des frais de scolarité. C'est vraiment pathétique de voir ça, des politiciens comme ça. Alors, faut pas se fier aux urnes. Si on veut avoir des résultats, c'est en descendant dans la rue, en prenant son destin soi-même dans ses mains, qu'on va pouvoir y arriver. Alors, la conclusion du huis clos, seule la lutte paie.
Écoutez-moi bien, moi je n'y vais pas par quatre chemins, je cherche un millionnaire.
C'était un reportage de François.
Un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois.
Je suis ce millionnaire.
Choix musical, Miss Tinguette et Je cherche un millionnaire.
Et oui, seule la lutte paie, et ça continue, imaginez-vous donc. On vous a parlé la semaine dernière des occupations de la FEC qui n'avaient pas vraiment marché et qui n'avaient pas non plus été vraiment revendiquées par la FEC. Ben, ils remettent ça, ils étaient en congrès en fin de semaine, la Fédération étudiante collégiale du Québec, et le dimanche matin, en lisant le journal, les délégués se sont rendus compte que les commissions jeunesse du Parti libéral du Québec étaient aussi en congrès en Montérégie, eux ils étaient en Mauricie. Alors ils ont décidé, ils ont fait ni une ni deux, ils ont décidé d'ajourner, de changer les trajets des bus jaunes et d'aller au congrès des jeunesses libérales.
La FEC, ça?
La FEC, ils sont rentrés de force, ils ont défoncé le service d'ordre, ils ont pris d'assaut le stage en scandant « La jeunesse, c'est nous !» et en disant que une organisation jeunesse qui supporte un dégel aussi massif des frais de scolarité, une hausse aussi radicale des frais de scolarité, ne pouvait pas se prétendre représentative le moins du monde. Donc, finalement, il y a peut-être du bon dans ce budget-là. Ça va amener des gens à poser des gestes, à faire des choses.
Ouais, mais il faut quand même... En tout cas, traditionnellement, si ça avait été le PQ au pouvoir, la FEC n'aurait pas bougé fort fort.
Non, je pense pas, effectivement. Mais quoi que c'est encore drôle, hein, même... En tout cas, dans mon jeune temps... la FEC, ça aurait été plus le genre à avoir des délégués dans cette réunion-là plutôt que d'essayer de l'envahir. Ah. Mais ça, c'est dans mon jeune temps. Moi il semble aussi que ça l'a changé. Et des fois, il y a des choses qui changent pour le mieux.
On sait jamais.
On sait jamais. Il y en a d'autres qui s'en viennent des actions. Écoutez, si vous êtes étudiant ou étudiante, vous savez probablement que le 31 mars, il va y avoir une grande manifestation nationale à Montréal appelée par l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. J'ai pas regardé récemment le décompte des votes de grève, là, mais ça a l'air que pas mal toute l'UQAM est en grève. Il y a l'UQTR aussi qui va tomber en grève, probablement l'UQO et d'autres facultés, d'autres cégeps. Une grosse manifestation à Montréal, on va pouvoir voir de quoi lasser, de quel bois lasser se chauffe. Dans la région de Québec, il va y avoir aussi des actions. Lundi, le 4 avril, il va y avoir une manifestation, un rassemblement organisé par la coalition régionale opposée à la tarification et la privatisation des services publics. Donc, ce rassemblement-là est public. On va vous en reparler, puis probablement qu'il y a plusieurs groupes qui organisent dans leur coin des petites actions coup de poing. Donc, on va suivre ça de près à voie de fait. Et là, pour l'instant, on s'en va en musique.
Oui, on va se reposer les oreilles avec The Specials.
Just
Rebonjour, vous êtes toujours sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit. Dans l'actualité cette semaine, je sais pas si vous êtes dans le même genre de réseaux sociaux que moi, mais dans le bien, il y avait une nouvelle qui tournait en boucle de protestation en anglais, en français, puis probablement que je l'ai reçu dans d'autres langues, si j'avais des amis qui parlaient dans d'autres langues. À l'effet que Exodus International, donc une espèce de secte chrétienne, un front là, qui s'était donné comme mission d'aider les personnes souhaitant être, tenez-vous bien, assisez-vous, libérées de leur homosexualité. Donc, il avait lancé une application dans le App Store chez Apple, une application pour les iPods, iPads, iPhone et compagnie. Donc, une application pour aider les gens à se guérir de leur homosexualité. Puis évidemment, bon, ça avait crié fort. Et puis, ben, c'est ça. Il y a des fois où est-ce qu'on gagne. Ça prend pas grand-chose, hein. Apple, 146 000 plaintes plus tard, a décidé de retirer aujourd'hui, mercredi, de son App Store, l'application d'Exodus International qui, évidemment, crie à l'atteinte à sa liberté d'expression. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. La preuve qu'on peut réussir des fois à faire des choses.
Puis que le monde n'est pas si taré.
Non, le monde n'est pas si taré à un moment donné, là, je veux dire. Mais c'était clair que ça allait à l'encontre de la politique d'Apple. C'était offensant pour plein de gens. Puis, tu sais, ils veulent pas garder de trucs racistes, sexistes.
C'est pas bon
même quand c'est sexuel, en fait, ils veulent pas. Là,
c'est pas bon pour leur business.
Non, c'est pas bon pour leur business. Faut pas que ce soit offensant. Donc, voilà. Sinon, autre bonne nouvelle qui est tombée ce matin. Je sais pas si t'as suivi ça, Farouko, mais la CSN est en train, tranquillement pas vite, de syndiquer les couches-tard.
Oui.
Les dépanneurs. Ben, il y a le plus gros dépanneur de toute la chaîne qui vient de déposer une requête en accréditation.
C'est où?
C'est Saint-Liboire.
Oui, le Mégaplex station-service moins cher.
Ils sont 40 employés.
Ouais, mais t'as pas vu ça, toi. C'était un super marché.
Oui, quasiment. En tout cas, ils ont déposé une requête d'accréditation. Donc, ça en fait 4. Qui dépose une requête. Ça se rapproche de Québec.
Ah!
Bon, c'est sûr que dans le contexte, les coups de cochon sont pas complètement exclus, là. Il peut toujours avoir des fermetures d'établissements,
licenciements
de syndicalistes. Mais c'est ça. Sauf que là, la CSN, elle cible seulement les dépanneurs qui sont propriétés directes de Couche-Tard. Ils veulent pas cibler de franchisés. Là, le boss de Couche-Tard a envoyé, là, il y a deux semaines, genre une vidéo à toutes ces... comment qu'il appelle ça?
Ses gérants.
Ses partenaires, ses employés, en fait.
Ah!
Pour leur dire qu'il y a beaucoup de dépanneurs qui allaient fermer si c'était syndiqué. Ils sont rendus à 4. Fait que plus qu'il y a de requêtes en accréditation, moins qu'il y a de chances de se faire faire des coups de cochon dans ce genre-là. Bon. Encore un petit effort, là, il en reste 496 à syndiquer, mais ça progresse, on est en business. Donc c'est ça essentiellement. Est-ce que je voulais vous dire d'autres choses avant de passer au reportage? Ben non, on va aller directement au deuxième reportage de cette édition de Voix de fait.
Les proprios, on ne sait rien, les locataires, c'est tout ou rien. Si tu n'aimes pas la corde, ils sont dans les airs. Si le ministre ferme les yeux, tu cries chou.
Lundi 21 mars, à l'occasion de la Journée internationale contre la discrimination raciale, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec organisait une manifestation dans la capitale. On écoute France Simon, porte-parole du regroupement.
Nous sommes devant les bureaux de la corporation de propriétaires, la Corpic, et nous sommes ici pour dénoncer la discrimination dans la recherche de logements. Oui! Merci d'être là, c'est très important. Il faut se tenir debout et lutter pour défendre nos droits, notamment le droit au logement.
Non adresse et téléphone, c'est tout ce qu'il faut qu'on donne.
Non adresse et téléphone, c'est tout ce qu'il faut qu'on donne.
Plusieurs groupes sont venus témoigner de la discrimination qui se vit encore dans la recherche de logement au Québec. On écoute Steven Ouellette de l'Association de défense des droits sociaux de la Rive-Sud.
La discrimination effectuée à l'endroit des personnes à cité sociale, c'est inacceptable. Une discrimination qui va à l'encontre du droit au logement.
Yes, monsieur.
Une discrimination basée sur les préjugés entretenus par les propriétaires membres de la Corpic. Oui. Le préjugé qui dit que la personne à l'aspect social sont des mauvais payeurs.
C'est vrai.
Le préjugé qui dit que les pauvres ne se font pas attention au logement, que ça va s'en prendra pas soin, que ça va même l'endommager. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur louer de loyer. Eh bien, c'est faux. C'est un écran de fumée pour cacher la réalité, nous le savons bien. La réalité, c'est que les propriétaires sans cœur au Québec qui cherchent juste à faire plus de fric. C'est payant, le marché de l'immobilier. Et pour les propriétaires véreux, le changement de locataire, c'est l'occasion de faire des affaires en or. Pour des milliers de personnes à cité sociale qui devront trouver un nouveau logement cette année, c'est ça qui les attend. La loi du plus offrant. Eh bien, nous sommes là pour le dénoncer. C'est inacceptable.
Préjugés des proprios, les locataires en ont leur lot.
Les préjugés des proprios, les locataires en ont leur lot.
Les préjugés des proprios, les locataires en ont leur lot.
Les préjugés des proprios, les locataires en ont leur lot.
Le 21 mars, donc, est la journée internationale de l'élimination de la discrimination raciale. Les organismes membres de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, regroupant plus d'une centaine d'organisations, se rallient à la manifestation pour dénoncer les pratiques insidieuses que le marché privé du logement locatif laisse croître sans mesure d'encadrement. Si l'accessibilité au logement est difficile pour l'ensemble de la population, elle l'est encore plus pour les nouveaux arrivants. Nouveaux arrivants qui sont sans antécédent de crédit au Canada, souvent sans référence et sans connaissance du marché locatif. La précarité économique, l'augmentation fulgurante des coûts du loyer et la rareté du logement abordable sont aussi des contraintes qui s'additionnent. Mais les nouveaux arrivants sont aussi confrontés à des réalités encore plus difficiles qui sont la discrimination reliée à leurs différences, à leur origine ethnique, à leur couleur de peau, à leur sexe, au du fait qu'ils sont monoparentales.
Oui!
Nous croyons que l'organisation de l'accueil des immigrants de toute catégorie doit pas juste être un consensus économique, ça doit aussi être un consensus social. Dans ce sens-là, il faut mettre des mesures pour leur donner le droit à un logement convenable et adéquat. C'est un droit essentiel.
Lundi matin, Karim, Manon et Pierre-Yvan sont venus chez moi visiter mon logement. Mais comme ils sont bien beaux, le proprio a dit, puisque c'est ainsi, oubliez ce loger.
Et c'était le deuxième reportage de cette édition de Voix de Fait. Alors on va passer en musique avec Kenny Arcana, La rue nous appartient.
Expulsés de nos centres-villes, expropriés de nos droits, colonisation trop subtile pour que vraiment le peuple voie. Divisés dans la peur, trop renfermés sur nos mères, celles qu'ils sèment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. Ces mêmes bourreaux qui viennent taper sur nos crânes et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs pendant que des bâtiments sont vides, tant pour prendre la valeur. Ça expulse des familles, des vieux, des enfants, entre gardes CRS et caméras de surveillance. Quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple, mais aux marchands d'immobilier. Fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin, on ne laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Tirer de nos quartiers populaires, c'est des bandes qui poussent à la place, nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la casse. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base. Veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers. Police featuring Air France. Babylone. Si jamais t'as pas de papier, Babylone construit son empire sous nos misères. Depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération pour qu'émissaire. Mégots de gêne sous le préau écrasé, mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice, y'a que des murs et des tensions. Des familles, même des enfants, enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier devenu un mode de vie. Des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle. Dites-leur ça va trop loin, pas d'apartheid. Non, la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter la pluie qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid. On dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix.
Finira par vaincre,
finira par vaincre.
Qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre,
qu'on a le nombre.
Et que la rue nous appartient.
Mesure européenne, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicat, collabo qui joue le jeu de la drague. Pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui se voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui virent ses habitants sans prendre la peine de reloger. Sans papier, humilié par les gardiens du chaos. Compagnie aérienne, complice de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte. Fichage ADN, coups et blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain. Désobéissant, car la rue nous appartient.
Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter la rue, qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid. On dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix.
De retour à Voix de Fée, sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. On se disait tantôt, moi et Farouko, en écoutant le reportage sur la manifestation du regroupement des comités logements et associations de locataires, là, il y avait la dame du Centre multitechnique de Québec qui parlait de discrimination, de la discrimination que vivent les réfugiés, les nouveaux arrivants à Québec dans la recherche de logement. On se disait, mon Dieu, on est dans un monde de taré où on s'inquiète encore de d'où ce que tu viens, où ce que t'es né, qu'est-ce que t'as fait et tout. Puis ben, ça tombe bien parce que le prochain micro, c'est là-dessus. On trouve
pile poil.
On trouve de tout sur Internet, mais vraiment de tout. Et même des charpentiers menuisiers à Brossard qui, dans leur temps libre, s'enferment dans leur sous-sol et enregistrent des capsules vidéo humoristiques. Et des fois, pas si humoristiques que ça. Alors, ben c'est ça, toujours dans mon dans mon fameux réseau social. Il y a Gabriel Leroy qui est apparu. Ça fait une couple de fois que je le vois, Gabrois, passer. Il fait plein de trucs. Il avait fait une affaire assez pas pire sur qu'est-ce qu'un douchebag, là.
Ouais.
Et différentes affaires. C'est assez trash. Mais bon, écoutez, comme je le disais, c'est un charpentier menuisier de Brossard qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Mon Point de Vue, où il y a en fait un blog vidéo. C'est un vlog, comme on dit dans la novlangue du Web 2.0.
Ah.
Un vlog d'opinion. Alors, le jeune homme a confié avoir commencé ses capsules dans le but d'évacuer toute l'agressivité qu'il avait développée en tant que nouveau non-fumeur. Il ajoute du même souffle que ce vlog et son petit monde secret et que sa blonde s'imagine à tort qu'il regarde de la porno dans le sous-sol alors qu'il enregistre des capsules humoristiques. Et donc, ben, c'est ça, il aime ça faire rire et c'est tout à notre avantage. C'est des capsules d'opinion qui font parfois usage de blagues juvéniles, alors c'est lui-même qui dit ça, mais il atteint aussi sa cible avec des pointes d'un humour grinçant bien placé. Et faut savoir que il y a aussi de la musique sur son blog, il présente régulièrement des beats de son cru et c'est parfois assez cru justement.
Ouais, donc, il ça fait vaut la peine. Des battles de rap, c'est ce que j'ai vu.
Ah, il fait plein d'affaires. C'est assez quelque chose. Vous avez juste à taper Gabriel Leroy, Mon Point de Vue dans Google, vous allez le retrouver. Il y a comme 3-4 sites différents. Il y en a un, ça s'appelle levraigabroy.com, où est-ce qu'en plus de ces capsules, il y a aussi des photos qu'il a vues, des affaires, tu sais, ses commentaires sur d'autres affaires. Fait que c'est quand même quelque chose. Puis là, ben là, aujourd'hui, on a sorti un truc qui est pas humoristique. En fait, je sais pas s'il voulait que ce soit humoristique, mais ça l'est pas. Mais par contre, ça résume bien notre opinion et envoyer une carte de sympathisant du CL par la malle. Donc, Gabrois sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, on a trouvé ça sur YouTube.
Toi là, t'es fier d'être Québécois?
Ah oh, ouais?
Pourquoi? Pourtant, t'as rien accompli pour être Québécois, tu sais. Pourquoi tu serais fier d'une condition que t'as acquis en naissance? Es-tu fier d'être grand? Es-tu fier de la couleur de tes yeux? Es-tu fier d'être blanc? Tu réalises-tu que Vincent Lacroix, il y a autant de raisons que toi d'être fier d'être Québécois?
Ah, je comprends. Toi, ce que t'essaies de dire, c'est que t'es heureux de faire partie de la collectivité québécoise. Parce que selon toi, le peuple québécois est meilleur que les autres, voire supérieur. Génétiquement supérieur ou genre divinement supérieur? On est peut-être le peuple élu, mais tu sais, moi, là, je suis fier de quoi, dans le fond? Ben, je suis fier d'être un père présent pour mes filles. Je suis fier de ce que j'ai accompli comme humoriste. Je suis fier de mon jardin en été. Je suis fier de ma recette de nacho et pepperoni. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est des choses qui viennent de moi. Certains diront que je suis individualiste. D'autres vont dire que c'est juste normal de s'identifier à un groupe. Mais tu sais, ta nation, ta langue, c'est vraiment ça ton groupe? Je veux dire, j'ai-tu tant de points en commun que ça avec Pierre-Carl Péladeau, Pauline Marois ou Lucien Bouchard? J'ai comme l'impression que j'ai plus de points en commun avec un poseur de gifs de Toronto que j'en aurai jamais avec Céline. Je sais pas pour toi, mais moi, ma classe est sociale. Elle est pas linguistique pis elle est pas territoriale non plus. Allez pas croire que je suis fédéraliste, ok? Je suis juste un gars qui comprend pas ce trip de nationalisme, qu'il soit québécois, canadien, américain, whatever. Fuck, on est en 2011. J'ai des Australiens pis des Chinois sur mon Facebook. On est en train de l'Union Européenne, de la mondialisation des marchés. Puis toi, t'es fier de ta tribu? Pose la question. Est-ce que c'est le goût de voir des games de hockey à Québec qui a poussé 60 000 personnes à aller marcher dans les rues? Ou bien c'est une crise d'identité profonde? Personnellement, j'aime bien ça être plus qu'une couleur ou un drapeau. Mais ça, c'est juste mon point de vue.
Mais quand même, avoue que c'est pas pire.
Ouais.
Ça résume effectivement assez bien le mien aussi de point de vue. Écoute, c'est pas mal déjà ce qui va mettre fin à cette édition de Voix de fait, sinon que on va à l'instant faire quelques plugs. Alors, je sais pas si les auditeurs, les auditrices étaient au courant, mais nous avons un journal qui s'appelle oui. Cause commune. Cause commune, dont il y a un numéro qui est sorti la semaine dernière ou l'autre d'avant. On l'a distribué pour la première fois le 12 mars. Donc, c'est le numéro 31 du printemps 2011. Alors, un très bon numéro que nous allons lancer vendredi.
Ouais, ce vendredi. Si vous avez acheté des billets pour l'eau pavillon de la jeunesse, faites-vous rembourser.
Venez à la page noire à la place.
Laissez les curés tranquilles.
Venez fuck le nouvel évêque. Donc, un 5 à 7 et un peu plus à la page noire au 265 Dorchester le 25 mars. Ça va être une occasion aussi pour nous de jaser. Parce qu'on va faire une présentation sur les services publics et puis il va y avoir une discussion animée, budget, services publics, perspectives libertaires sur les luttes en cours, etc. Le tout agrémenté de bières, de grignotines, de cocktails spéciaux. Amenez toutes vos amis. 265 Dorchester, vendredi 25 mars, dès 17h. Donc ça, c'était pour The Plug de la semaine. Je crois que c'était la seule plug. Est-ce que c'était la seule plug? C'était la seule plug.
Ça y ressemble.
Hein? Oui. C'est assez. Manquez pas la manifestation de la C, justement, le 31 mars.
Parlant de la C.
Et puis, ben, c'est ça. Si jamais vous vous ennuyez de nous, vous pouvez aller voir sur notre blog qui, ma foi, reprend vie depuis deux semaines. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi et François, on est en feu. Peut-être même qu'il va y avoir d'autres membres du collectif qui vont être en feu bientôt qu'ils. Sait-on jamais. Donc c'est ça. C'était Nicolas en compagnie de
Farouco.
Puis là, ben là, il y a François puis Janie qui se sont joints en cours de route. Mais voilà. Donc voix de fait avec un X et un S point blogspot.com et on vous laisse écouter avec Chumbawamba. Give the Anarchist a Cigarette. Je pense qu'on en aurait bien besoin ces temps-ci.
T'as sorti ça des boulamés.
Ah oui, en plus, c'est un live.
Oh boy.
C'est de toute beauté.
Montez le son.
Albert!
Whoa!
Bobby!
Whoa!
For God's sake, burn it!
He said, we're gonna catch
Indiana, use the cigarette.
Her puppy just hasn't learned trick yet.
Indiana, use the cigarette.
The pretend to change it, but he just forgets.
Indiana, use the cigarette.
He's gonna choke on his harmonica output.
Every little bug down by his tail. Every fire needs a little bit of help.
How can you see from this one brat?
Indiana gives the cigarette.
Who get out, but she wants you a check.
Indiana gives the cigarette.
And it'll be burning up the air in his personal jets.
Indiana gives the cigarette.
You know I hate every porn star that I ever met.
Quand il y a une crise du logement, quand il y a un sommet des Amériques, quand il y a la guerre, quand on coupe mon chèque, quand il y a du sexisme, du racisme, de l'homophobie, ou quand j'ai juste besoin qu'on parle de moi, de toi, de nous, Sequoia est là, comme une amie. Mais des fois, comme moi, Sequoia est cassé. Heureusement, moi, j'ai toujours des amis pour m'aider à me sortir de la marde. Quand j'ai besoin, mes amis sont là. Sequoia a beaucoup d'amis. Puis je pense que c'est le temps pour eux, pour elles, pour nous, d'être là. 529-9026.